Vous êtes beau, hein? Comment allez-vous?
Bien.
J'aime bien, je vois des trucs bleus qui... On dirait des petits chiens derrière les voitures, vous voyez? Vous vous souvenez, dans le temps, c'était la mode. Des petits chiens comme ça derrière les voitures. Bien. On est content de vous revoir. Il y a un peu plus de monde que la semaine dernière. C'est sympa de se retrouver, de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Juste quelque chose qui est venu sur mon cœur là pendant ce temps de louange. Vous savez que ce que nous proclamons, et je le dis tout le temps, même si je dis beaucoup de bêtises, je vous l'avoue, je dis souvent des bêtises, mais je ne fais pas de bêtises derrière l'Église. Je dis des bêtises, mais néanmoins, sachez une chose, c'est que ce que nous proclamons est important. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu la courte exhortation que j'ai donnée il y a 2 semaines sur... pendant le culte, qui était encore enregistré à l'époque, où on parlait de la bénédiction qu'on apportait à quelqu'un. Donc je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais sachez en tout cas que Dieu ordonne à Lévi, à Moïse, de dire « Tu demanderas aux Lévites, tu demanderas, ce n'est pas moi, tu demanderas aux Lévites de proclamer ces paroles de bénédiction. Que l'Éternel te garde. » Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi. Il y avait 3 choses. La 3e chose, je ne me souviens plus. Enfin, bref. Et c'est comme si les paroles d'un homme pouvaient amener la bénédiction de Dieu. Vous savez, souvent on dit « je te bénis », mais en réalité, quand on proclame une bénédiction sur quelqu'un, c'est qu'on amène, alors je ne sais pas, vous demanderez au Seigneur quand vous le verrez, mais c'est comme si vous amenez la bénédiction sur la vie de quelqu'un. Autrement dit, à chaque fois que vous priez pour quelqu'un, je dis à chaque fois, parce que j'espère que vous considérez comme des fils et des filles de Lévite, puisque nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu le Père. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je donne une parole de bénédiction, j'amène Dieu à bénir cette personne. Et regardez ce qu'il est écrit à la fin. Il est écrit, c'est ainsi que les Lévites mettront mon nom sur les Israélites. Il y a 2 choses que nous devons savoir dans notre vie chrétienne, mais dans notre vie de toujours, je crois. C'est de savoir qui nous sommes en Dieu. Qui êtes-vous? Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Je le suis aussi, hein. Bon, déjà là, c'est difficile à le trouver de foi. Je vous l'accorde. C'est pas le message, hein, mais tant pis. Et parfois, pourquoi je dis ça? Parce que je crois qu'il y a quelque chose de prophétique dans ce que je suis en train de dire. Il y a qui nous sommes fils et filles du royaume, fils et filles de Dieu. Mais ce qui est vraiment important, c'est de connaître aussi ce que nous sommes en Dieu. Moi, je n'ai pas trop de misère maintenant à dire, c'était difficile au début de ma vie chrétienne, de dire « merci parce que je suis ton fils, Père ». Aujourd'hui, j'ai trouvé qui je suis en Dieu. Et je souhaite que chacun d'entre nous trouve qui nous sommes en Dieu. Vous êtes des fils et des filles. Mais maintenant, parfois et souvent, nous oublions ce que nous sommes en Dieu. Et dernièrement, j'ai vécu une expérience assez forte dans la prière où le Seigneur m'a dit « Rappelle-toi ce que je t'ai dit, Bruno. Ce que j'ai dit de toi. » Ce que je considère que tu es en moi. Et le Seigneur m'a montré plein de paroles prophétiques. C'est comme si, vous savez, comme il y a parfois, avant Star Wars, il y a tout défile là. Vous voyez l'histoire, ce qui s'est passé avant. Et puis c'est comme si je voyais chose par chose ce que j'étais en Dieu. Et à un moment donné, parce que j'ai vu ces choses, j'avais abandonné un peu ce que j'étais en Dieu. Et je l'ai revêtu tout à nouveau, ce manteau sur ma vie. Et ça a développé quelque chose. Et j'aimerais vous amener ce matin à comprendre que Dieu veut que vous sachiez qui vous êtes. Quel projet il a pour toi. Geoffrey a prêché il y a 2 semaines sur l'appel. Enfin, 2 ou 3 semaines. Souvenez-vous, pour ceux qui ont regardé. La semaine dernière, il y a eu quand même quelque chose qui a été donné de la part de Matthieu. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train d'insister sur le fait que nous devons trouver en réalité notre place dans le royaume. Pas juste dire « j'ai ma carte d'identité en Christ », mais aussi de connaître ce que nous sommes. Parce que ce que nous sommes va déterminer nos actions derrière. Et je crois que Dieu, actuellement, veut parler à son Église. Il veut parler à chacun de ses enfants et de dire « Tu es mon fils, tu es ma fille, mais attends, voilà ce que je veux que tu fasses pour moi. » Mais pour entrer dans ça, dans ce projet divin, on doit, en quelque sorte, sortir de notre zone de confort. Parce que... Oh, puis bon, je ne vais pas commencer, on va voir. AG2. Je reste fidèle à l'alliance. Vous savez, Dieu ne change pas. On voit dans les gouvernements des différents pays, avec cette pandémie, des gens qui avaient une certaine politique, qui était, que je respecte, je ne suis pas là pour faire de la politique. Et ces gens, à cause de ce qui s'est passé, revoient leur manière de leur vision de la politique, de l'économie de leur pays, etc. Ça se voit notamment en France. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Vous savez, Dieu ne change pas. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit toujours. Ce ne sont pas les circonstances qui changent Dieu. Dieu est immuable. Et ce matin encore dans la prière, le Seigneur me disait, tu sais Bruno, moi je ne change pas. Toi tu changes. Les circonstances ont changé tes directions parfois. Parce que tu t'es laissé porter par les circonstances, si je puis dire. Et le Seigneur me dit, moi, toi, tu es comme ça, Bruno. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Dieu ne change pas. Et tout ce que Dieu a dit, il est immuable. Il ne changera pas. Tout ce que Dieu a dit, tout ce qui est dans la parole de Dieu, tout ce qui est dans la Bible, il accomplira. Tout ce que Dieu t'a dit, il accomplira. Et ce n'est pas un confinement, ce n'est pas une pandémie, ce n'est pas une bombe nucléaire qui peut exploser. Rien ne changera le projet pour Dieu, de Dieu pour notre vie. Et Dieu dit, je reste fidèle à ça. Il dit, et mon esprit est au milieu de vous. Parce que parfois on pense que Dieu s'est éloigné de nous à cause des circonstances. Ce n'est pas vrai. L'Esprit de Dieu est toujours avec nous. Et là, quelles que soient les circonstances, positives, négatives, joyeuses, douloureuses, peu importe, il est toujours, et bien plus qu'au milieu de nous, il est aussi en nous. Et il nous dirige par son Esprit. Ne craignez pas, encore un peu de temps, dit. Et ça m'a renvoyé, quand j'ai reçu ce passage, ça m'a renvoyé à ce que j'ai reçu il y a presque un peu plus d'un an et demi. Vous savez, cette vague humaine. La première des choses que Dieu m'a dites avant de me parler, m'a dit « J'ébranlerai les cieux et la terre ». Il n'a même pas dit « J'ébranlerai, j'ai ébranlé les cieux et la terre ». Et après, il m'a montré ce tsunami. « J'ébranlerai toutes les nations ». Et attendez ceci, ça me renvoie à ce que nous avons vécu les derniers temps. Même les plus puissants de ce monde ne savaient plus quoi faire. « J'ébranlerai toutes les nations ». Et Dieu l'a fait. Il a ébranlé. Les trésors de toutes les nations viendront. C'est-à-dire que c'est quand même assez extraordinaire. Parce que je ne sais pas quelle vision vous avez de ce qui vient de se passer. Qui peut être une vision assez négative des choses. Ça nous a paralysés. Ça a provoqué une crise sanitaire et économique mondiale comme jamais on a connu dans ce monde. Et regardez, Dieu dit, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Alors moi, je ne vois pas de la richesse là-dedans. Parce que lorsque je regarde la vague humaine que Dieu a montrée, vous savez, il y a une richesse dans ce que Dieu a mis dans chacun des êtres humains. Il y a un projet divin, il y a un trésor. Et lorsque je vois cette vague, je ne vois pas quelque chose de négatif. Au contraire, je vois toutes ces personnes qui viendront dans le temple avec toute leur richesse, avec ce qu'ils sont en Dieu, fils et filles, mais ce qu'ils sont en Dieu, fils. C'est-à-dire, il y aura des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Il y aura des personnes qui prendront soin d'autres. Il y aura peut-être des gens qui seront capables de faire des choses comme on n'a jamais vu. Et Dieu va amener ses richesses. Où ça?
dans sa maison. L'argent est à moi, dit le Seigneur. L'or est à moi. Et la gloire de cette dernière maison sera toujours plus grande que celle de la première. Ça fait des années que je cherche ça. La gloire de Dieu, à tel point que ça, on n'a même plus besoin d'enseigner, de prêcher, de dire. Les gens entrent et la gloire transforme la vie des gens. Et quand je disais tout à l'heure que nous devons prier, bénir les personnes, demander au Seigneur de les bénir, afin que leur vie soit transformée, qu'ils aient, le Dieu reflète sa face sur leur visage, ça me fait penser à Moïse qui était sur la montagne et dont le visage a été totalement transfiguré. C'est cette gloire-là qui changera la vie des gens. La gloire de cette maison sera plus grande que celle que la première. Et c'est dans ce lieu-là que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Dieu reste toujours fidèle à ce qu'il dit. Il secoue, eh oui, il a secoué, mais c'est pour manifester sa gloire en nous. Une gloire comme elle n'a jamais été connue. Voilà ce qui attend le peuple de Dieu dans les temps qui viennent. Une gloire, mais aussi un lieu de sécurité, où nous, les gens qui viendront se sentiront sécurisés. Et dans l'histoire de la Bible, Dieu a toujours secoué dans ce but. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours permis de secouer afin que ce qui est de l'homme dans son temple soit enlevé pour que juste ce qui est divin demeure. Je reste fidèle à l'Alliance. Voilà, donc une petite introduction. Pourquoi ? Parce que maintenant, je vais vous parler de Néhémie. Et moi, je pense que Néhémie, il est arrivé dans une période où Dieu avait secoué. Cet homme s'est trouvé face à quelque chose que Dieu avait secoué et il avait secoué dur le Seigneur. Il avait secoué Jérusalem, mais l'ensemble de Jérusalem, pas simplement le temple. Il avait secoué les montagnes, les murailles aussi. D'accord ? Et cet homme est en captivité à Suse, à l'époque alors j'ai toujours des difficultés, Artaxerxès. Désolé, hein, mais je fais des progrès avec l'âge. Des hommes de Juda lui donnent des nouvelles. Et cet homme, il reçoit des nouvelles à la fois des personnes qui sont à Jérusalem. Il reçoit des nouvelles pas très bonnes, même terribles, et des Juifs rescapés de la déportation, et au sujet de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il entend ? Que la maison a été détruite, mais il entend aussi que la muraille de la ville est pleine de brèches, et les portes ont été détruites par le feu. Il ne reste plus rien. Pourquoi ? Parce que Dieu avait secoué, Dieu avait ébranlé. Et cet homme se trouve face à ce que Dieu a fait. Il a dit, oh là là, Seigneur, tu as secoué cette ville. Tu as secoué les habitants. Tu as secoué ce pays. Et à cette nouvelle, regardez ce qui se passe. Parce que ça, on va aller au centre peut-être de ce qui nous pose problème aujourd'hui. Cet homme est effondré. Il pleure. Il porte le deuil pendant plusieurs jours. Et il jeûne et il prie devant le Seigneur. Cet homme était alors responsable des boissons du roi. Dans les versions plus anciennes, il était échanson. En fait, c'était le sommelier. Alors, j'étais interpellé par ce verset, par ces mots. Cet homme était responsable des boissons du roi. Non pas parce que vous connaissez mon goût pour les bons vins, mais c'est surtout que le Saint-Esprit m'a interpellé. Parce qu'en réalité, cet homme, ce Néhémie que vous voyez ici, c'est un homme qui avait sa vie bien réglée, bien tranquille. Il avait son avenir assuré, vous savez. Bon, il avait un peu de risque quand même au cas où il y aura un peu de poison dans l'apéritif, dans le Ricard du roi. Non, il devait goûter forcément. Il y a un peu de risque dans ce qu'il faisait. Mais cet homme était, si je puis dire, un haut fonctionnaire, bien établi dans ce qu'il était, relax. Lui, pour lui, son avenir était tout tracé. Et ce qu'on recherche dans notre vie, souvent, c'est un avenir tout tracé, non ? Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je voulais un job, un bon boulot, bien payé, et pas travailler beaucoup. Je n'ai pas toujours tout retrouvé en même temps. Et cet homme, il se retrouve devant une situation terrible. Et la première des choses, c'est qu'il se laisse toucher par Dieu. Souvent, les nouvelles qu'il reçoit sont mauvaises et ça le touche profondément. Et moi, c'est la question que je vous pose, parce que je me suis posé la question. Face à tout ce que j'entends aujourd'hui, est-ce que je suis touché ? Ou est-ce que je me dis, moi, ça va, hein ? J'ai fait un peu de chômage partiel, mais le salaire est là, je suis tranquille, cool Baptiste, tout va bien. Ça va, l'eau ? Et moi, lorsque j'entends des nouvelles du peuple de Dieu de mon pays, lorsque je vois ma génération présente, lorsque est-ce que mon cœur est touché ou est-ce que je suis indifférent ? Bien que papy, non ? Ou est-ce que je suis insensible ? C'est une question fondamentale que je veux vous poser ce matin. Parce que vous allez pouvoir mesurer votre niveau de... Comment on peut dire ça, par lequel vous êtes touché ou pas. Vous savez qu'aujourd'hui, en France, en Europe, dans le monde entier, il s'est levé un grand mouvement de prière de la part des croyants. Parce que Dieu a trouvé des hommes et des femmes qui avaient été touchés par ça. Ils ont trouvé des hommes et des femmes qui n'étaient pas insensibles, mais au contraire sensibles. Ils ont trouvé des hommes et des femmes qui ont commencé à prier, qui ont commencé à intercéder. Et vous savez pourquoi ils ont commencé à prier ? Parce qu'ils ont été touchés. Autrement dit, je touche ici à quelque chose d'important. Si on n'est pas à un moment donné touché par le Saint-Esprit, si on n'est pas à des nouvelles, par rapport à des nouvelles que nous pouvons recevoir, voir, entendre, si je passe mon temps à critiquer le gouvernement, si je passe mon temps à dire « ils auraient dû faire ça », si je passe mon temps à dire « oui, mais il y en a marre de ceci, oui, il y en a marre de cela », c'est pas comme ça que je suis touché. Je suis touché en connaissant ce que Dieu a voulu dire lorsqu'il dit « je vais secouer les cieux et la terre et je vais amener ma gloire dans l'Église ». Dès lors où j'entends ça, Je me laisse toucher par Dieu. À ce moment-là, là, le Saint-Esprit peut faire son œuvre. Parce que mon émotion ne vient pas d'un fruit de ce que je vois dans les médias, mais d'un fruit de ce que Dieu a dit. Le confinement n'a-t-il pas créé cette forme d'indifférence ? Moi, je vous le dis en toute honnêteté, les premiers jours, il y avait une véritable indifférence en moi que je n'arrivais pas à maîtriser. Je me dis, ça va, oh, je suis là, bien au chaud, à la maison, c'est Marie qui va faire les courses. Je prends aucun risque. Est-ce qu'elle n'a pas provoqué cette insensibilité ? Je vous pose la question, je me la suis posée, voire même une certaine forme d'égoïsme. Regardez ce que fait Néhémie à cette nouvelle. Je me suis assis, non pas pour dire « je suis bien au chaud », j'ai pleuré. J'ai porté le deuil pendant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Pendant des jours, il a prié. Ça n'a pas été le fruit d'une émotion instantanée, comme on peut le voir parfois. Dans nos églises, on est touché sur le coup par une prédication, par un verset de la Bible. Non, ça a duré des jours. Il a jeûné, il a prié, il a porté le deuil parce que la situation l'avait touché au plus profond de son cœur. Mais est-ce que l'Église est encore touchée? L'Église est-elle devenue insensible au point qu'on est content de rentrer chez nous tout à l'heure, de boire l'apéro et d'en oublier même de prier pour les perdus? Dieu interpelle. Je vous le dis. Dieu interpelle ses enfants et il souhaite que l'on prenne les choses à cœur. Voilà. Si notre cœur n'est pas touché, mes frères, mes sœurs, mes amis, si notre cœur n'est pas touché, on ne sortira pas de notre zone de confort. Je vous le dis. Si ça, il n'y a pas quelque chose qui vient percer là mon cœur, rien ne se passera dans ma vie. On continuera à venir tous les dimanches, à faire notre louange, à écouter le message. Mais on ne verra jamais la gloire de Dieu. Parce que la première des choses que Dieu veut ébranler, c'est ton cœur. C'est notre cœur, c'est notre manière de voir les choses dans le royaume de Dieu. Et voici ce qu'il dit au Seigneur. Souviens-toi de la parole que tu as donnée à Moïse de prononcer. Et derrière, il fait un état des lieux. Il dit, à chaque fois que vous désobéirez, Dieu l'a dit, par l'intermédiaire de Moïse, si vous désobéissez, je viendrai, j'enlèverai même ce que vous aviez dans votre ville. Mais si vous revenez à moi de tout votre cœur, je vous rétablirai. En gros, voilà les... Il ne fait pas les choses précipitamment, même s'il est touché émotionnellement. Il jeûne et il prie en s'appuyant sur ce qui est écrit dans la Bible. Appuyez-vous sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Et quand moi je reproclame aujourd'hui la bénédiction sur ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, mes beaux-enfants, mes belles-filles, je proclame la bénédiction. Je proclame la bénédiction sur cette communauté. Je proclame la bénédiction, oh, pas que j'ai un pouvoir de bénir, je vous l'ai dit dans le message, mais parce que je sais que quand je me mets à prier, lorsque je prends les choses à cœur, Dieu entend la voix de son Fils. Et Dieu répond. Et il attend, il appelle un peuple qui se met à ouvrir la bouche et se met à proclamer la bénédiction sur son pays, sur le gouvernement, sur les policiers, sur ceux qui manifestent contre les policiers, sur les divisions qui touchent aujourd'hui les Français, cette division raciale. Dieu veut réconcilier, il veut rebâtir, et vous êtes le, si je puis dire, le bouton, la clé qui va enclencher les choses. Ce n'est pas les manifestants, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui va changer les choses. C'est le peuple de Dieu qui prend les choses à cœur et qui commence à prier pour son pays. Alors je vais vous raconter une histoire d'un ami pasteur qui est sorti de sa zone de confort. J'ai entendu son témoignage samedi de la semaine dernière. Et voici ce qu'il a dit. Il y a un frère qui l'appelle en pleurs. Tout de suite, à la fin, juste avant le déconfinement, il l'appelle en pleurs. Et il me dit, pasteur, ça fait 2 jours que je ne dors plus. Ma femme se plaint de douleurs abdominales. On est allé aux urgences, ils nous l'ont envoyé. Ils ne savent pas ce qu'elle a. Elle a mal. Et il dit, j'en peux plus, pasteur. On est dans la panique complète. Apparemment, c'était des gens aussi qui se sentaient insécurisés par rapport à tout ce qui s'était passé. Et là, le pasteur, il aurait pu dire, ok, c'est encore dangereux pour sortir. Je vais prier depuis mon bureau. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé chez eux, en gardant les distanciations, en portant le masque, un homme prudent. Et il a dit, voilà Seigneur, je vais là-bas, et je vais là-bas en appliquant ta parole. Il a pris de l'huile, il a fait l'onction d'huile. La nuit suivante, la femme a super bien dormi, guérie totalement. Il ne savait pas ce qu'elle avait, mais guérie totalement. La femme rappelle le lendemain, elle dit « Ah, pasteur, c'est extraordinaire, j'ai dormi, je n'ai plus mal, alors que ça faisait des jours et des jours que je me plaignais de douleurs abdominales. » Le pasteur dit, gloire à Dieu, il a accompli sa parole, tout simplement. Mais pourquoi il a accompli sa parole, le Seigneur ? Parce que cet homme est sorti de sa zone de confort, tout simplement. Parce qu'il a mis sa foi en action sur ce que Dieu avait dit. Donc, écoutez bien le reste de l'histoire. Elle est charmante, extraordinaire, j'aime beaucoup. La femme lui dit, ouais, mais pasteur, qu'est-ce que je fais ? Parce qu'aux urgences, ils m'ont pris un rendez-vous avec un spécialiste. Parce qu'eux-mêmes ne savaient pas ce que j'avais. Donc, ils m'ont conseillé d'aller voir un spécialiste. Donc, le pasteur lui dit, va voir le spécialiste. Et vous savez ce qui se passe ? Cette femme, c'est une femme médecin, elle lui dit, elle lui partage sa foi. Elle lui raconte ce qu'elle a vécu. Elle me dit, ça fait des semaines que je suis malade. C'est des semaines que j'ai des douleurs abdominales. Mon pasteur est venu, il a appliqué de l'huile sur moi et j'étais guéri. Vous savez ce qu'a raconté cette femme médecin ? Vous savez, quand j'étais petite, j'allais chez ma grand-mère qui était chrétienne évangélique. Et un jour, ma grand-mère m'a dit ceci. Un jour, ma petite, il y a une personne qui viendra te voir. Sa grand-mère est en train de prophétiser. Elle va t'expliquer qui est Dieu et ce que Dieu est capable de faire. Et le médecin a dit, aujourd'hui, ce que ma grand-mère m'a dit s'accomplit. Regardez quand un chrétien commence à bouger, quand un chrétien commence à entrer dans ce qu'il est en Dieu. Vous êtes tous des fils et des filles. Oui, maintenant, entrons, s'il vous plaît, dans ce que nous sommes en Dieu. Parce que là, nous allons commencer à voir la gloire de Dieu se manifester. Là, Dieu va commencer à nous amener vers des choses extraordinaires. Et nous-mêmes, on commencera à se raconter des choses, pas des choses qui se sont passées à plusieurs dizaines de kilomètres d'ici, mais des choses que nous vivons même ici, dans notre propre vie. Oui, Dieu a permis que ce couple soit secoué, il a ébranlé, je vous l'accorde. Je me mets à la place de la sœur qui a souffert pendant des semaines. Et ça ne devait pas être facile. Mais voyez comment la gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de ce couple, mais aussi dans la vie de ce médecin. Notre cœur doit être touché par ce que nous voyons et entendons. Jésus, vous savez, il a été attristé. Et je crois que quand il prophétise sur Jérusalem, qu'il dit combien de fois, Jérusalem, j'ai voulu te faire du bien, et je t'ai envoyé des prophètes, je t'ai envoyé des... Et il a été attristé. Il était attristé par des gens qui voyaient des choses extraordinaires qu'il accomplissait. Et nous le verrons encore. Peut-être qu'il y a des gens qui seront guéris. Peut-être qu'il y aura des familles qui seront totalement reconstruites. Et qui ne viendront pas à l'église, et alors, peu importe. Ça appartient à Dieu, ça, c'est sa gloire. Vous savez, l'apôtre Paul a été attristé par le comportement de certains chrétiens, voire même par le comportement de certaines églises. Et nous, on voit des séparations, on voit des divorces. Je ne juge pas ceux qui divorcent et ceux qui se séparent, hein, que les choses soient claires. Mais ce n'est pas dans la normalité. Vous savez, on a un couple d'amis, ils s'appellent Gégé et Maria. C'est des elle est d'origine portugaise. Maria de Souza, vous savez, des trucs qui n'en finissent pas. C'est un couple, il y a combien d'années ? Plus de 20 ans ? À peu près 20 ans. Nathan était tout petit. Ils étaient sur le point de divorcer. Je crois que j'ai raconté, mais tant pis, je suis vieux, donc j'ai le droit de répéter. Et ce couple était sur le point de divorcer, mais vraiment une crise grave. On n'a jamais dit c'est de la faute de l'un, c'est de la faute de l'autre. On les recevait à la maison. Quand il y en a un qui venait se plaindre à la maison, ben, on le recevait, puis on essayait de faire pour notre mieux. Mais à chaque fois, on disait on prie pour vous. Voilà, et on témoignait de notre foi. Et puis, je me souviens qu'un jour, ils sont revenus ensemble, ils se sont remis ensemble. Et l'année prochaine, au mois de juillet, début juillet, le 6 juillet, je crois, le 10 juillet, l'année prochaine, je ne serai sans doute pas au culte le lendemain matin, ils vont se remarier. Parce qu'ils ont quand même divorcé, mais ils ont revécu ensemble pendant toutes ces années. Et là, l'année prochaine, ils se remarient. Vous savez, à chaque fois qu'ils ont besoin de Dieu, Dieu agit. Vous verriez, il a perdu son boulot il y a 4 ans, mon copain, mon coach, GG, il a perdu son boulot. L'année dernière, au mois de décembre, ils étaient fin de droit. Elle avait perdu son boulot aussi. Je crois qu'il leur restait plus grand-chose, quoi. Il a trouvé du boulot. Là, il va être embauché. Et à chaque fois, ils le disent, à chaque fois, vous priez pour nous, nous voyons Dieu agir. Alors, certes, si, quand on fait une petite manifestation, peut-être qu'ils vont venir. Mais ils n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus. Mais ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et croyez-moi, il nous a fallu sortir plus d'une fois de notre zone de confort. On a déjà accueilli notre amie Maria. Des fois, c'était en pleine nuit, hein, en pleurs, etc., etc. Mais Dieu a fait ce qu'il voulait dans cette situation. Un peuple qui sort de sa zone de confort va commencer à voir les choses bouger. La période que nous venons de vivre a-t-elle atteint notre zèle au point que l'état des lieux nous laisse froid et indifférent? Je tiens à vous interpeller là-dessus. Si vraiment vous ne vous sentez pas interpellé à prier, vous ne vous sentez pas interpellé à rentrer dans quelque chose de concret, posez-vous la question. Je ne jette pas d'accusation, hein, vous le savez, je parle avec amour, mais posez-vous la question. Parce que moi, je me la suis posée, je me suis dit, oh là, Seigneur, il faut que je fasse gaffe là. Il y a eu un zèle, un feu dans le cœur de Néhémie. Clairement. C'est pourquoi il a été capable de relever le défi. Ce feu doit brûler dans ton cœur. Il y a un feu nouveau, un zèle nouveau qui doit venir dans ton cœur. Voilà le résultat d'un cœur touché. Il va aller devant le roi. Il va commencer à avoir de l'audace. Vous savez, si notre cœur n'est pas touché, on remettra toujours en question les choses. Mais si ton cœur est touché, tu vas voir, l'audace va commencer à arriver. Il reçoit l'approbation divine. Il prie devant Dieu, mais aussi devant le roi qui lui donne l'autorisation. Il commence à être capable, lui, petit sommelier du roi, vous imaginez, il va être mandaté, il reçoit un mandat du roi, qui était le roi le plus puissant de la terre à l'époque, et il lui dit, vas-y, reconstruis les murailles de Jérusalem. D'un sommelier, il est transformé en bâtisseur. Et un sage bâtisseur, on va le voir. Il aura de la détermination, de la persévérance. Vous savez, il y a un piège dans lequel l'ennemi veut toujours nous faire entrer. Discutons ensemble. Vous savez qu'il y a des ennemis qui ne voulaient pas que les murailles soient reconstruites. Hein ? Je ne me trompe pas. Bon. Et à un moment donné, les ennemis disent, venez, discutons ensemble. Vous savez ce que Néhémie il a fait ? Il a dit, non, moi je ne discute pas, je bâtis. Je reste déterminé sur ce que Dieu m'a donné de faire. Parce qu'il connaissait le piège à force de discuter sur soi-même, à force de discuter les uns les autres. Vous savez ce qu'on finit par faire ? On finit par être replié sur soi-même. S'il vous plaît, arrêtons de discuter et agissons dans le but d'amener la gloire de Dieu. Prions, mettons-nous à genoux. Jeudi, il y a 60 places de disponibles pour prier, si vous voulez. Seigneur, donne-moi de voir, s'il vous plaît, que ce soit cette prière pour vous. Donne-moi de voir, ouvre mes yeux et donne-moi du courage pour accomplir ta volonté. Et je crois que j'ai fini. Voilà.